Et donc, bienvenue à cette table ronde de débat philo sur les sociétés de contrôle et la liberté. Donc, tout d'abord, donc moi je suis Nicolas Lefebvre, co-organisateur de la convention. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette table ronde? Eh bien, en fait, c'est que le sujet du contrôle et toutes les déclinaisons qu'il peut avoir dans la science-fiction, notamment, m'a toujours fasciné. Et pas que dans la science-fiction, d'ailleurs, mais bon, puisqu'on est là, c'est autour de la science-fiction. Parce que parmi mes films fétiches, il y a, ça parlera peut-être à certains et moins à d'autres, mais Dark City, Truman Show, Le Cercle des Poètes Disparus, bon, ça, c'est pas de la SF, mais... Ça aborde aussi le sujet du contrôle. Matrix, c'est de la fantasy. Et puis, en termes de littérature, il y a La Zone du Dehors, bien sûr. Le Travail du Furet de Jean-Pierre Andrevon. Et puis, je cite comme ça deux autres œuvres, mais dans les mangas, il y a Ikigami. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un super manga là-dessus. Et puis, il y a un truc qui m'est venu en tête aussi, c'est un dessin animé de Katsuhiro Otomo, celui qui a fait Akira. Et il avait fait un court-métrage qui s'appelle Chair à canon, et aussi qui est super pour ça. Enfin, j'ai vraiment trouvé fascinant. Donc voilà, enfin bon. Et puis, il y a l'œuvre de Herbert aussi, où il y a beaucoup de Frank Herbert, où il évoque beaucoup de concepts qui m'ont toujours fasciné, quoi. Il faut toujours regarder les choses d'une autre manière. Tout jugement oscille sur la pointe de l'erreur, donc vraiment remettre en question son environnement pour pas justement tomber dans un système où on est privé de sa liberté de penser ou d'agir. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu articuler cette table ronde sur trois axes principaux sur lesquels on va essayer de débattre et puis de réagir avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions au cours du débat, hein, c'est ouvert. Donc une première partie qui sera l'outillage du contrôle. Donc quelle forme prend le contrôle de nos jours? Comment il se manifeste. Deux, la demande sociale du contrôle. De contrôle, parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que finalement les individus n'ont pas besoin du contrôle? Est-ce que sans le contrôle, ils ne seraient pas finalement livrés à eux-mêmes et incapables de s'émanciper? Et puis enfin, un troisième point qui est la liberté. Quelles sont les alternatives et de quelle manière peut-on résister au contrôle? Voilà. Donc pour participer à ce débat, j'ai convié Thierry Ménissier, qui est un prof de philo à la fac, philosophe émérite, et qui va peut-être se présenter un peu plus en détail. Et puis donc Alain, qu'on ne présente plus. Et voilà. Donc je laisse Thierry se présenter, puis je reprendrai la parole après.
Bonjour, je suis Thierry. Thierry Ménissier, maître de conférence de philosophie politique, et je travaille aussi en sciences politiques. Je suis aussi président, comme il est écrit ici, de la Société Alpine de Philosophie. Et la Société Alpine de Philosophie, et non pas la Société de Philosophie Alpine, bien que ça se confonde de temps en temps. Et à ce titre, j'ai l'habitude, la vertueuse habitude, je trouve, de pratiquer la philosophie et de la faire pratiquer à un public de non-spécialistes. Donc il ne s'agit pas d'enseignants-chercheurs, ni même d'étudiants. Et donc, c'est-à-dire que je suis ici parfaitement à ma place, c'est-à-dire totalement décalé. Donc ici, il y a aussi le trésorier de mon association, mon bras droit, qui va faire passer d'ailleurs, un peu de pub si tu permets, des flyers pour le festival de philo qu'on organise dans quelques jours et auquel vous pouvez participer. Voilà. Donc je terminerai cette courte présentation en vous disant que je suis assez content d'être ici parce que je suis un lecteur très amateur de science-fiction, mais il m'a toujours semblé que la science-fiction faisait de la philosophie ou la philosophie faisait de la science-fiction. Réellement, à beaucoup d'égards. Et il y a aussi des éléments qui me font dire que c'est quand même plus amusant de faire de la science-fiction que de la philosophie, parfois. J'ai encore vu tout à l'heure.
Ok, merci Thierry. Je vous laisserai utiliser ce micro-là, en fait, après. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par l'outillage du contrôle. Donc, quelle forme prend le contrôle de nos jours? Alain m'a envoyé un mail où il évoquait la sphère techno-contrôlée individuelle, où finalement on est environné de tout un tas d'assistants, téléphones portables, GPS, tout un tas de gadgets finalement qui font notre vie de tous les jours et qui finalement nous enferment un peu dans un, dans un cocon technologique. Et voilà. Et puis tu pourras aussi parler peut-être de la zone du dehors, en fait, qui met en scène un peu voilà une société où le contrôle est finalement très très diffus, un peu comme ce qu'on peut vivre nous tous les jours, mais où sous le couvert d'une liberté, d'une démocratie, finalement tout le monde se surveille les uns les autres, et puis on a un peu du mal à se dégager de tout ça.
Oui, avant de répondre sur l'outillage du contrôle, je vais peut-être faire un retour aux sources, c'est-à-dire essayer de rappeler comment je suis venu sur ces thèmes. Parce que là, on parle société de contrôle, liberté, etc. Ça va de soi. On a le sentiment que l'expression, maintenant, elle est consacrée et que tout le monde voit ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai commencé à écrire, donc j'avais 20 ans, j'ai commencé extrêmement tard, et je sortais d'une grande école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, et dans laquelle j'avais découvert un système extrêmement insidieux de mise en forme du capitalisme naturel dans la tête des étudiants. Et j'étais extrêmement mal à l'aise par ce cycle d'études, ces 3 ans que j'avais passé là-bas. Parce que moi, je venais d'un milieu qui était un milieu d'artisan. Mon père était carrossier, quoi, ma mère était prof. Et je découvre des strates sociales, telles que Bourdieu l'a très bien défini, vraiment une énorme stratification sociale qui est très française dans ces écoles-là. Et surtout, j'avais un énorme mal-être, c'est-à-dire que je voulais rentrer en militance et j'arrivais pas à trouver où, j'arrivais pas à trouver le trou dans le mur qui allait me permettre d'exprimer toute la rage que j'avais. Et surtout, je comprenais pas ce qui m'aliénait. C'est-à-dire que j'étais dans une situation et dans un type de société, c'était la fin des années 80, alors je peux le dire maintenant avec le recul, oui, c'était la fin des années fric, c'était la fin des années tapis, c'était les années d'hiver dont on parle Guattari, mais surtout, moi, j'avais un sentiment d'oppression extrêmement... extrêmement poisseuse sur les épaules, un sentiment que j'avais devant moi une liberté a priori absolue puisque j'avais fait cette école et qu'en France ça ouvre toutes les portes, et en même temps je me sentais complètement gangréné comme ça de l'intérieur, et je pigeais pas pourquoi. Et là j'ai fait une rencontre comme on arrive à en faire parfois, j'ai rencontré deux philosophes en fait qui étaient à l'époque Deleuze, enfin les livres de Deleuze et les livres de Michel Foucault. Et j'ai surtout rencontré dans ce fameux livre dont peut-être on va parler aussi ce soir, Surveiller et punir de Foucault, j'ai rencontré ce premier concept qui était l'analyse des sociétés disciplinaires, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une analyse extraordinaire des sociétés qui jaillissent à peu près à la civilisation industrielle, fin 18, 19e, début 20e, où il explique comment s'est mis en place ce régime disciplinaire. Et je comprenais bien que ce régime-là, c'était plus celui dans lequel on était, quoi. C'était plus un régime vraiment hiérarchique, c'était plus vraiment un régime avec des segmentarités dures. On n'organisait plus les milieux d'enfermement comme à l'époque, c'est-à-dire dans la famille, c'était extrêmement structuré, cloisonné. Après, c'était l'école. Après, c'était l'armée, la caserne. Après, c'était l'hôpital, etc. Et Foucault décrit tous ces systèmes d'enfermement, décrit toute la distribution des corps dans l'espace et ce qu'il appelle l'anatomie politique, c'est-à-dire comment on exerce un pouvoir sur ces corps et on leur apprend à faire telle ou telle chose. Je comprenais que ce monde-là était en train de disparaître et qu'on arrivait dans un nouveau monde qui était justement la société de contrôle. Et Foucault, lui, dans Surveiller et punir, il dit pas société de contrôle, il dit plutôt pouvoir de normalisation, des choses comme ça. Et je tombe sur un texte, début des années 90, je tombe sur un texte qui a été décisif pour moi, que je vous recommande de lire, c'est un texte très court de 5 pages de Gilles Deleuze, qui s'appelle Postscriptum sur les sociétés de contrôle, qui était paru dans une revue. Et ce texte, même quand je le relis aujourd'hui, est extraordinaire parce qu'il fait cette distinction discipline-contrôle, et il montre dans quel monde on est en train d'entrer. Et dans ce monde-là, justement, toutes les lignes dures auxquelles on avait l'habitude, même, je pense à la lutte syndicale, par exemple, la lutte syndicale qui s'articulait autour de corps constitués, c'était le corps des ouvriers, c'était des métiers assez homogènes. On pouvait mobiliser une masse de résistance, et les syndicats arrivaient à peu près à bosser à ces époques-là et à s'opposer à ce qui était contre eux. Et on se rend compte que tout ça se disloque, tout ça se dissout, il y a une atomisation du corps social, il y a une individuation croissante. Le capitalisme devient un capitalisme de flux, un capitalisme de surproduction, alors qu'avant c'était un capitalisme de production. Enfin, tout ça se met en place de façon très, très, très bizarre. Et moi, je nais dans ce milieu-là, j'arrive à 20 ans dans ce milieu-là, quoi. Et j'ai écrit La Zone du Dehors pour répondre à ça et pour essayer de dire, voilà ce qui germe, voilà les tendances qui émergent. Si je les pousse à fond, qu'est-ce que ça donne? Quel type de société ça donne? Et voilà, j'ai donc fait ce fameux Cerclon, cette ville qui est une ville de contrôle et dans laquelle on a ce système parfaitement démocratique et insidieux de manipulation et de contrôle de la population, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu sur ces thèmes-là, enfin moi en tout cas que je continue à travailler sur ces thèmes-là, et j'y reviens là dans mon prochain roman où je vais travailler aussi sur des notions de furtivité, de résistance à, on en parlera plus tard, mais aux nouveaux outillages du contrôle, c'est-à-dire traçabilité, géolocalisation, toute cette société nouvelle encore qui est très supportée par la technique, très supportée par, par l'optronique et toutes les technologies très souples qu'on, qu'on met en place et qui à mon sens voilà, vont travailler sur le sur nos axes de liberté. Mais enfin, bon, j'ai déjà trop parlé, donc je vais passer.
Non, mais on va revenir juste après, peut-être sur le.
C'est juste pour voilà, relancer,
ouais, faire le cadre. Bah, du coup, Thierry, tu peux peut-être rebondir sur ce que dit Alain sur l'historique un
oui,
peu du
moi,
contrôle.
J'avais aussi prévu d'évoquer Michel Foucault, enfin sans que ce soit académique, mais enfin, c'est un auteur évidemment majeur hein, pour ses. Il a vraiment bouleversé la question du contrôle. Notamment en distinguant cette question du contrôle de celle classique pour la philosophie politique de la domination. Voilà, celle de la domination, c'est une question qui classiquement évoque le fait de régner, le fait d'assujettir les corps et les âmes. C'est toute la problématique en fait qui va jusqu'à Foucault, qui part de Platon ou Xénophon, puis qui arrive jusqu'à Orwell, passant par Marx, etc. Et Foucault, il change complètement les choses. Et il le fait en plusieurs temps. C'est un petit peu comme une sorte de Mozart qui fait des improvisations, qui ne se poursuit pas d'ailleurs jusqu'au bout. C'est une œuvre pleine de ruptures. Et puis ce qu'Alain n'a pas dit, c'est que ça va jusqu'à un concept, enfin un couple de concepts à la fois qui parlent à l'imagination et qui sont assez difficiles à comprendre, biopouvoir et biopolitique. Donc c'est, si vous voulez, la fin de l'œuvre de Foucault. Dans ses cours au Collège de France, hein, donc au début des années 80, Foucault il va mourir en 1984. Eh bien, à la fin des années 70, début des années 80, il évoque, comme en passant, ces concepts de biopouvoir et biopolitique. Alors, ils sont éloquents puisque ça évoque spontanément le pouvoir sur le corps ou la politique du corps. Mais enfin, finalement, on voit pas bien où ça peut aller au-delà de généralités de ce genre. Et pour le comprendre, il faut bien partir de ce qu'a dit mon camarade, c'est qu'il s'agit de dépasser la notion classique de contrôle telle qu'elle était encore liée à la domination, par le biais notamment de la discipline, hein, ce qui vient d'être brillamment évoqué. Hein, le philosophe de profession que je suis ne trouve aucune fausse note dans ce qui a été dit. Félicitations. Alors, mais on n'est pas là pour ça. Alors simplement, bon, bah voilà, tout aussi... Dans la même mot, on peut dire, voyez, que Foucault vraiment veut partir de la question telle qu'elle se posait pour arriver à une nouvelle manière que personne n'a jamais vue, dit-il. Alors, ce que tout le monde pensait, c'est que le pouvoir faisait mourir et laissait vivre. Et Foucault, il dit, il faut penser maintenant les modalités où le pouvoir fait vivre et laisse mourir. Une formule très jolie, hein, à la Foucault, quoi, qui claque.
Alors, James Bond aussi.
Voilà. c'est un petit peu ça, oui. Alors qu'en fait, il s'agit de penser cette fois le pouvoir sur le milieu où les populations et par suite les individus évoluent. Pouvoir sur l'environnement, sur les conditions de vie, sur l'air, sur l'eau, sur l'hygiène. Alors, c'est tout un travail qui a inspiré certains historiens, qui est parti à partir de là, hein, qui est parti de là. Enfin, c'est pas encore allé assez loin, et Foucault veut réfléchir de manière assez subtile la manière dont le pouvoir médical, qu'il a déjà analysé largement par ailleurs, hein, dans la première partie de son œuvre, le pouvoir médical influence les individus, désignant les bonnes pratiques et en fustigeant, stigmatisant les conduites à risque. C'est-à-dire que le pouvoir s'entend comme contrôle à partir du moment où il responsabilise les individus. Donc ça va devenir très insidieux. C'est-à-dire qu'il y a une action sur le sujet qui passe par la conscience de ce sujet de faire des choix. Alors, on peut imaginer par exemple que tout ce que je viens de dire, c'est un canevas un peu général qui est vite mis en tension dans un système, par exemple, où on attribue des biens en nombre limité, un système assurantiel, un système de sécurité sociale où l'on va calculer hein, les risques que prennent les gens et proportionner les allocations aux risques que prennent les gens. Ainsi, on peut imaginer, par exemple, que dans l'analyse de Foucault, qu'il n'a pas menée à son terme, mais qui est développée de nos jours en philosophie politique, on peut penser l'influence et donc le contrôle, mais un contrôle, vous allez voir, d'une nature particulière, à partir du moment où on doit calculer l'optimisation des contraintes.
et répartir les biens en nombre limité. On peut se livrer ainsi à une sorte de menace, voire de chantage assez subtil sur les individus à qui l'on signale qu'ils doivent, s'ils veulent bénéficier des allocations ou des assurances, limiter leurs désirs et leurs besoins, éventuellement se conformer aux conduites déclarées bonnes. Donc on voit bien, par exemple, il y a un contrôle indirect des populations, mais c'est bien un contrôle sur ce qui est considéré comme leurs excès en matière de tabac, d'alcool, de prise de drogue, voire en matière de sexualité. À partir du moment où on leur dit que, par exemple, certaines pathologies dont on peut établir qu'il y a des chances qu'elles soient en relation avec un certain nombre de « mauvaises » entre guillemets conduites, eh bien, ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc là, on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'il y a une, plus qu'une incitation, une injonction à se conformer à des pratiques déclarées bonnes. Mais vous voyez, cette notion de biopouvoir va plus loin encore. Elle va plus loin encore, elle est encore plus subtile, parce que, et ça donne vraiment à réfléchir, elle évoque les formes de contrôle qui mettent en contradiction l'individu. Donc qui non seulement le responsabilisent, mais lui font subir une sorte de double lien, de double bind, qui le met en porte-à-faux avec lui-même. Ou je pense aux situations, plus précisément, vous allez voir, où on lui demande à l'individu d'exercer une responsabilité à la fois nécessaire et impossible. Prenons, par exemple, le cas... Alors tout ça est lié évidemment avec l'analyse foucauldienne de l'antipsychiatrie. Cette manière qu'il avait d'intégrer, comme le faisait Deleuze aussi, la logique de l'antipsychiatrie comme extrêmement importante et souvent conjurée par la pensée académique.
Alors, ce que tu appelles antipsychiatrie,
c'est-à-dire c'est toute une école d'antipsychiatres, donc des gens qui travaillent sur les pathologies mentales, mais en même temps en mettant en question l'ensemble de l'institution, l'ensemble de la société, en montrant que souvent quelqu'un qui souffre d'une déficience mentale, qui a un problème comportemental, a une réaction saine à une situation malsaine, par exemple. Voilà. Donc il s'agissait de prendre en compte l'environnement, la manière dont finalement ce qu'on appelait autrefois la folie, et plus récemment la maladie mentale, ou les troubles comportementaux, était en fait une réaction du sujet à un environnement qui le conduisait à être fou.
Et voilà. Du coup, c'est tous les autres qui seraient finalement malades mentaux, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société qu'il faut traiter, quoi. Vous voyez ? Et ce sont des écoles qui ont, en quelque sorte, des courants de pensée qui ont voulu politiser la société en mettant en question ce que c'est qu'une institution familiale, ce que c'est que le pouvoir paternel, parental aussi, ce que c'est aussi qu'une institution sociale. Voilà. Donc Foucault s'inscrit dans cette perspective qui me semble extrêmement féconde pour traquer les formes de contrôle subtiles. Alors là où c'est intéressant, c'est que Foucault va plus loin dans la mesure où il intègre la dimension de la biologie, la dimension des techniques biomédicales. Et là, c'est proprement génial, si on entend par génie quelqu'un qui anticipe une époque à venir, en ce sens que, par exemple, quiconque a été confronté aux questions du diagnostic prénatal a éprouvé ce que c'est que le biopouvoir. Ou même la biopolitique, au sens vraiment normatif du terme, au sens actif du terme. Prenons par exemple le cas d'une grossesse supposée à risque, tout simplement parce que la mère, la femme enceinte, a plus de 40 ans. On vous dit, attention, regardons les statistiques, pas bon ça. Statistiques, par principe, c'est des statistiques, hein, vous n'êtes peut-être pas concerné, mais enfin bon, c'est pas bon. Donc, on vous propose la myosynthèse. Vous pouvez la choisir ou pas. Donc vous voyez que l'individu, là, est mis en crise. Il y a un contrôle qui s'exerce sur lui assez subtilement, qui consiste à dire, votre enfant, statistiquement, a peut-être une pathologie. Peut-être il ne l'a pas. Vous pouvez ou non choisir le diagnostic prénatal. Si vous le choisissez, vous mettez l'enfant en danger. Parce que c'est une technique qui est dangereuse. Si vous ne le choisissez pas, ben, il y a un risque. Hein, voilà. On vous aura prévenu. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas assorti d'un effectif contrôle ensuite, en disant, bah, attention, si l'enfant n'est pas normal, il ne sera pas pris en charge. On pourrait imaginer ça, dans une société qui contrôle les choses encore plus fortement. Non, mais je vais y venir. Je vais y venir, attendez. Laissez-vous.
On va y revenir, justement.
La salle est vibrante.
C'est la suite.
Alors... Prenons. Mais moi, c'est vous qui dites ça. Moi, j'ai pas dit que c'était contrôlé. J'ai pas dit ça, moi. Non, non, pas du tout, pas du tout.
Il n'y a pas de sous-entendu.
Non, non, soyez plus philosophe, il n'y a pas de sous-entendu. Vous avez le droit de me prêter sous-entendu, mais ce ne sont pas les miens.
Oui, il y a une question là-bas.
Mais si vous voulez bien, je voudrais finir avant. Moi aussi, je l'ai vécu là, il n'y a pas longtemps. Attendez, on y vient. Alors, prenons maintenant la suite. Autre forme, alors bizarre, on va y venir, du contrôle, ainsi entendu. Je vais revenir sur cette notion de contrôle après. C'est que, une fois qu'on a donc, admettons, fait le test, etc., on peut choisir ou non un avortement thérapeutique. Là encore, le pouvoir médical, appelons ça comme ça, le bon sens, appelons ça comme ça aussi, les émotions, appelons ça, c'est assez complexe, appelons ça comme ça aussi, à l'intérieur du sujet, peuvent nous conduire à choisir, entre guillemets, volontairement, l'avortement thérapeutique. Mais vous voyez, dans tous les cas, ce qui se passe ici, alors avortement thérapeutique qui peut concerner une anomalie génétique, c'est-à-dire quelque chose qui ne se développera peut-être pas, qui plus est. Dans tous les cas, on a affaire, ce que Foucault avait très bien anticipé, alors que les techniques n'existaient pas à son époque, on a affaire massivement répandue dans la population à une forme d'eugénisme soft, voulu par les sujets, souhaitable peut-être, comme le disait votre camarade tout à l'heure, souhaitable peut-être, pour améliorer éventuellement l'existence, contrer les souffrances physiques et morales potentielles, et en tout cas détecter l'anomalie. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire chez Michel Foucault, ça donne à penser, je crois, vers le possible, plus encore que vers ce qui existe encore de nos jours, c'est que, vous voyez, en tant qu'amateur de science-fiction ou professionnel de la science-fiction, il y a cette dimension, je crois, qu'on peut explorer, parce qu'il y a une sorte d'étrange contrôle, très étrange, parce qu'il n'appartient à personne, il est partout et nulle part, il y a une forme d'autocontrôle qui agit de manière illimitée, qui concerne la prise en charge médicale généralisée qui est à certains égards souhaitable et à d'autres pas du tout. En tout cas, il y a une sorte, certains auteurs parlent de totalitarisme de la santé, alors ce qui est un peu délirant parce qu'en même temps, on voit bien que ce qui est en cause, c'est une idéologie typique de la modernité. C'est que la population soit en bonne santé et le plus de population possible. Donc finalement, un des impératifs moraux très forts de la modernité devient quelque chose qui est potentiellement liberticide. En tout cas, ce qui me semble poser ici, il y a deux problèmes, pour finir ce premier point, si vous voulez, qui me semble aborder ici, c'est que premièrement, la question, vous voyez, technique est secondaire. La question technique est secondaire. Ce n'est pas parce qu'il y a de nouvelles techniques furtives, invisibles, techniques d'amélioration, que nous sommes en danger, c'est pas pour ça que nous sommes en danger, c'est parce que nous les souhaitons. En fait, ce qui se passe, c'est que la force de la pensée de Michel Foucault, c'est de montrer que les techniques biomédicales, ensuite peut-être les nanotechnologies, tout ce qui va se développer, si vous voulez, rendent l'homme potentiellement victime de ses propres choix, parce que d'abord, il y a une disposition, appelons ça sécuritaire ou sanitaire, qui est la suite de la modernité, que nous avons finalement souhaité massivement. Première chose. Deuxième chose, le problème qui est posé ici, puisqu'on parlait de société de contrôle et liberté, c'est, me semble-t-il, la question du dehors, la question de l'extériorité, la question de la résistance. En fin de compte, il y a certains foucauldiens qui estiment que la seule liberté qu'on a, c'est de revendiquer ses propres pathologies. Donc, la figure du résistant devient tout à fait bizarre, c'est celle aussi de l'exclu, c'est celle aussi du déviant. Voilà. Donc ça permet de reformuler assez fortement, vous voyez, la notion de liberté, qui donc reste à inventer dans ces nouvelles sociétés de contrôle.
Donc, il y a une question.
Je trouve ça très intéressant. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup sur cette histoire de contrôle. Je suis un petit peu d'accord avec monsieur que malgré tout, dans vos paroles, j'ai pas lu Foucault, mais sans doute c'est influencé par ça, cette idée, cet attachement qui se comprend, hein, à ta vie qu'à la liberté. Alors je déclare tout de suite, hein, je suis un utilitariste pur et dur, et je me demande pourquoi le contrôle. Et quand je me pose cette question-là, je vous pose la question aussi, je me dis, un peu comme monsieur, est-ce que le contrôle ne viendrait pas du fait que y a des ressources limitées et que la société a besoin de s'organiser pour exploiter ou exploiter ses ressources. Et que, quelquefois, quelque part, elle autogénère ce contrôle pour s'organiser. Donc, oui, excusez-moi, peut-être que je... donc voilà, c'est en gros la question c'est pourquoi le contrôle ? Parce que on peut imaginer le contrôle pour devenir le plus puissant du monde, mais moi ça tient pas 5 minutes cette histoire. C'est, on a l'impression que le contrôle c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas simplement un gars ou une fille qui veut devenir le maître de l'univers et puis non, ça tient pas 5 minutes. Pourquoi le contrôle ? Voilà.
Est-ce que d'une certaine manière la liberté passe pas par un contrôle partagé ? Là où le problème, c'est pas le contrôle, il faut qu'il y ait contrôle pour qu'on puisse s'organiser. C'est le problème du partage au contrôle qui est mal expliqué là-dedans. Là où il y a problème, c'est de savoir si certaines personnes contrôlent tout le monde, là il y a un problème. Mais si c'est un contrôle collectif.
Pas seulement.
Si c'est un contrôle collectif, est-ce que contrôle n'est pas, d'une certaine manière, un autre mot pour dire organisation collective ?
On va prendre juste une dernière question, et puis après je laisserai peut-être Alain réagir sur les paroles de Thierry et puis sur ce qui s'est dit là. Je vais laisser la parole à Alain. Peut-être que tu peux compléter peut-être l'aspect, l'approche biologique de ce qu'a dit Thierry par l'aspect technologique auquel tu faisais réflexion. Et puis en même temps répondre peut-être aux questions qui se sont posées.
Ouais, y a énormément de choses à dire. C'est vrai que c'est passionnant. Et il y a dans le discours de Thierry, il y a énormément de choses qui permettent de prolonger et puis de pousser les branches et les feuilles et de faire fleurir plein de thèmes SF extrêmement intéressants. Moi, je suis très content que tu aies développé tout le thème sur la biopolitique, le biopouvoir, parce qu'effectivement, c'est fondamental et Foucault le décrit mais magnifiquement avec le traitement de la variole et tout ça, de la peste, de toutes les stratégies de prophylaxie, l'hygiénisme et tout. Moi, ce qui m'intéresse, je reviens au thème de science-fiction, parce que vous savez, quand je suis rentré en science-fiction, j'ai vraiment eu cette pulsion assez courante qui est de dire, si j'écris... Je vais écrire pour essayer de dénoncer, pour essayer d'alarmer, pour essayer d'alerter. Je vais essayer d'écrire pour que les gens passant à travers ce livre se conscientisent ou prennent vraiment conscience de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Et je pense que c'est vraiment un des atouts extraordinaires de la science-fiction d'être capable de traverser son époque, de prolonger ce qu'on pressent des tendances qui sont à l'œuvre et d'essayer de les exagérer, de les distordre, de les fausser, de les gauchir au maximum. Pour mettre les gens en face de ce qui peut réellement arriver. Alors, évidemment, on est toujours un peu schématique. Évidemment, on est toujours un peu caricatural et on va pousser le contrôle vers son, je dirais ça, son ombre la plus noire. Mais c'est aussi notre boulot. Et je trouve que dans une société où on positive énormément la technologie, c'est bien d'avoir aussi des contre-pouvoirs ou en tout cas des contre-pouvoirs spirituels par rapport à ça. Alors moi, par rapport à ce qui est dit sur la biopolitique et par rapport à l'évolution des mécaniques de contrôle, ce qui est intéressant, c'est que j'avais démarré la zone d'or donc en 90, on est maintenant en 2010, donc 20 ans après, et il s'est passé énormément de choses sur ces 20 dernières années, énormément de choses que j'avais absolument pas anticipées, alors même que je travaillais sur ces thèmes-là. Ce que j'avais surtout pas anticipé, et c'est en ce sens-là que je pense que j'étais très foucaldien à l'époque où j'ai fait la zone, c'est que Foucault, c'est ma perception en tout cas, reste extraordinaire pour décrire les sociétés disciplinaires, il a une intuition extraordinaire en parlant du pouvoir de normalisation et de la biopolitique, mais comme tu le dis, il y a une rupture, il va peut-être pas assez loin parce qu'à l'époque on le sentait pas encore arriver, et il déploie pas ce que va pouvoir être réellement la société de contrôle, et surtout il reste prisonnier à mon sens d'une conception assez pyramidale du pouvoir, d'un pouvoir qui est capable de mailler une société dans sa totalité, qui est capable de mettre en place des politiques publiques de la santé qui vont statistiquement contrôler tout le monde, mais avec toujours l'idée qu'il y a une sorte de point, malgré tout, même s'il le critique dans la volonté de savoir, etc., mais qu'il y a toujours un point focal duquel va s'exercer ce pouvoir et ce pouvoir se diffusant dans l'ensemble du corps social. Donc, encore mentalement, je pense qu'il est encore prisonnier de cette vision un peu disciplinaire. Or, ce qui arrive maintenant, en tout cas ce que je perçois maintenant depuis les années 90, c'est effectivement une émergence par le fond, par la population dans sa totalité, une émergence, j'ai envie de dire, presque démocratique ou pseudo-démocratique d'un autocontrôle très fort qui vient des gens et qui vient de la demande sociale des gens et qu'on voit apparaître et émerger à travers tout un outillage technologique, quoi. C'est-à-dire, bon, je parle du téléphone portable, je parle de l'Internet, je parle des iPods, des iPads qui arrivent, etc. Je parle de tout cet ensemble d'outillages, de ce que moi j'appelle le technococon, c'est-à-dire d'outillages technologiques avec lequel on a une interaction quotidienne et qu'on manipule quotidiennement, et qui nous met dans un réseau technologique permanent. On est toujours connecté à Internet, on est toujours connecté à son iPod, on est constamment avec son mobile géolocalisé du haut, mais ce n'est pas tellement le problème d'être géolocalisé du haut ou qu'on peut recevoir un missile dans l'absolu au mètre près, ce n'est pas ça le problème, parce que ça c'est encore raisonné en termes disciplinaires. C'est plutôt essayer de se dire comment cet autocontrôle, comment cette autorégulation qui apparaît de la demande sociale des gens nous place ou nous insère dans un tissage qui, à mon sens, est liberticide, oui, et là je le dis, je le ressens comme ça, c'est-à-dire que ça a beau émerger de la liberté des gens, ça a beau émerger d'une demande sociale des gens, ces objets technologiques ont beau naître d'une demande du marché, j'ai envie de dire, quoi, et les entreprises répondant à cette demande du marché, il n'empêche que le résultat anthropotechnique, c'est-à-dire la façon dont ça modifie le rapport qu'on a au monde, dont ça modifie le rapport qu'on a aux gens dans les rapports sociaux, par exemple, et dont ça modifie le rapport qu'on a à nous-mêmes, fait que j'ai le sentiment, moi, et c'est tout le sens de mon travail, qu'il y a une perte de vitalité. Voilà, je ressens ça comme ça, c'est vraiment mon côté jiranitien, c'est que je sens une perte de vitalité par le tissage comme ça, extrêmement sournois, extrêmement souple, de cette technologie autour de nous, de ce technococon autour de nous, qui nous rassure, qui nous autocontrôle, qui fait qu'on a le sentiment d'être constamment dans un continuum de relations avec les gens, sans avoir de relations réelles, ou en ayant très peu de relations réelles, charnelles, émotionnelles, affectives fortes. Il y a tout ça qui se met en qui se met en place. Donc voilà, moi c'est là-dessus que j'ai tendance à travailler aujourd'hui, et je rebondis sur un dernier truc avant de repasser la parole, parce que je jette juste des fusées un peu comme ça en l'air. Tu as parlé du dehors, c'est extrêmement important la notion du dehors dans ce type de société, parce que quand j'écris justement la zone du dehors, tout est dans le titre, c'est-à-dire que je considère qu'il y a encore un lieu, il y a encore une topologie de la résistance qui est à l'extérieur du système, et dans le livre, les révolutionnaires sortent de la ville, ont un énorme problème d'adduction d'air, d'oxygène, etc. C'est évidemment symbolique de la difficulté à vivre cette liberté, mais il y a encore un lieu où on peut recréer ex nihilo une société alternative avec d'autres règles. Bon, et la zone du dehors termine là-dessus, sur le dernier chapitre, que beaucoup de gens m'ont reproché en me disant « t'aurais dû terminer sur la révolution, c'était plus fort, c'était le climax, machin ». J'aurais toujours dit « non, je voulais montrer aussi ce que c'est que d'essayer d'endosser cette liberté, de la vivre ». Et de créer cette alternative. Sauf qu'aujourd'hui, quand je re-raisonne sur ces thèmes de résistance, pour moi, il y a de moins en moins de dehors. Il y a quasiment même plus de dehors. C'est une société qui est tellement dans un continuum de traçabilité, de géolocalisation, de connectivité, etc., que le dehors est très difficile à générer. Et le problème, c'est plus les zones interstitielles. C'est plus les plis. Alors
justement, on y reviendra dans la troisième.
Et comment se loger dans ces plis-là? Comment créer... je dirais des trous dans la plaque de rouille, enfin des trous de rouille dans la plaque d'acier plutôt. Voilà, c'est plutôt une topologie de l'interstice qui me paraît intéressante pour la résistance. Donc un dehors intérieur au dedans. Voilà.
Je voulais au moins rebondir par rapport à ce que tu disais sur la perte de vitalité. On parlait tout à l'heure, bon, moi je suis ingénieur dans une boîte de microélectronique, où je disais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment un clivage entre... les gens comme moi qui vont au boulot, qui fabriquent des puces électroniques, et le client qui va aller acheter son téléphone portable, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est complètement dissocié, c'est-à-dire que la plupart des gens ils vont bosser, ils produisent à fond, quoi. Enfin, faut toujours produire plus à moindre coût, etc. Et puis en même temps, j'ai l'impression que la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'envers du décor, c'est eux après qui vont aller acheter ces puces-là et les puces qui sont dans les téléphones portables ou les lecteurs DVD qui vont acheter tout ça. Quand ils perdent de vitalité, j'ai l'impression que c'est lié effectivement à une absence de questionnement sur la légitimité de ce qu'on produit par rapport ensuite à ce qu'on peut consommer. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais
il y a une douceur de ce monde, à mon sens. Moi, je travaille aussi beaucoup en ce moment sur l'idée de continuité ou de discontinuité, quoi. Si je prends le téléphone, par exemple, au moment où apparaît le téléphone fixe, la possibilité de point discontinu en point discontinu de pouvoir se parler était quelque chose d'extraordinaire, très intéressante. Mais vous n'étiez pas chez vous, vous n'étiez pas chez vous. On vous appelle, vous ne répondez pas. À partir du moment où le portable arrive, et que là, la technique, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a l'horizon performatif de la technique qui dit « Ok, on sait lier des points discontinus, maintenant, on va lier n'importe quel point dans l'espace à n'importe quel autre point dans l'espace. On va créer un continuum de connectivité. » Et c'est ça le portable, c'est ça le miracle du portable. On joint n'importe qui de n'importe quel point vers n'importe quel autre point, quoi. Et quand on crée ça, on crée une nappe de connectivité qui fait qu'on ne peut plus échapper, quoi. On est à l'intérieur de cette nappe. Alors on va vous dire, oui, mais tu peux éteindre ton portable, etc. Sauf que même éteint, on peut être opéré dans l'espace aujourd'hui et on peut savoir parfaitement où on est. Donc, de toute façon, demain, je pense que n'importe quel corps dans l'espace sera repéré, traçable et donc appartenant à un continuum. Nos coordonnées seront toujours en mouvement, mais toujours connues en temps réel. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on est... C'est très rassurant, ça. C'est très... De savoir qu'on est connecté tout le temps, ça nous rassure, c'est une sorte de confort mental, quoi. Et c'est contre ça, moi je pense qu'il faut des ruptures, il faut des discontinuités, et que l'homme a besoin de ces discontinuités, de ces espaces-là. Et ça, c'est la vraie liberté pour moi, c'est d'être dans le discontinu, quoi.
D'accord, il y a deux questions, on va prendre les questions, et après je pense qu'on pourra remonter sur j'avais envie de revenir aussi sur la question des ressources, le fait que le contrôle soit nécessaire par rapport aux ressources et tout, donc ce sera le... D'accord, ok. Bon, on va prendre les deux questions déjà.
Ce qu'évoque Alain là, c'est les fameux gaps, hein, c'est-à-dire le fait que la technologie a fait des bons qui nous a permis effectivement d'être liés d'une façon que la plupart d'entre nous, en tout cas vu la moyenne d'âge ici, n'avons pas connue dans notre jeunesse. Cette perte de vitalité dont tu parles, je crois qu'il y a beaucoup de gens des générations équivalentes aux nôtres qui la ressentent. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je pense pas du tout qu'ils croient ça. Je pense que le monde qui est en train de se fabriquer est absolument inconnaissable. Ça va tellement vite, ça change de toute façon tellement brutale. Tu l'as dit toi-même, il y a 20 ans, tu n'imaginais pas ce qui s'est passé. Et en revanche, les gamins d'aujourd'hui, ils baignent dedans. Ils n'éprouvent pas de perte de vitalité. Ils n'estiment pas qu'ils sont tout le temps espionnés, etc., etc. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont endormis ou est-ce que c'est parce qu'effectivement, il y a une transformation de l'être humain, hein? Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur la singularité, sur ce que c'est que le post-humain, etc. On parle de... À l'heure actuelle, on parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Mais la SF, elle est allée plus loin. Elle a parlé des post-humains, elle en parle souvent. Ben, est-ce qu'on n'est pas en train de les fabriquer? Et effectivement, ils nous sont inconnaissables. Est-ce que pour autant, il y a une perte de vitalité?
Merci, on va prendre la deuxième question. Non, mais c'est pour que ça enregistre, du coup.
Merci. Moi, je pense, cette histoire de continuité dont tu parlais, donc je suis quand même assez optimiste. Moi, je pense qu'on va, on reste pas bras ballants face à la technologie. On a des comportements qui s'adaptent, et je pense qu'on va mettre au point des stratégies de masque. Moi, je vois un seul exemple sur les forums. Les gens, par exemple, ont des avatars. Tu sais pas forcément à qui tu parles. Donc, c'est pas forcément un monde. On sait pas forcément l'identité de celui qu'on a. Enfin, ça pose d'autres problèmes. Après, on sait plus avec qui exactement on sera en relation. Mais je suis pas certain qu'il y ait pas des façons de faire la savonnette, de glisser hors de ce contrôle omniprésent. Petite intervention.
Je ne sais pas si Thierry, tu veux répondre, ou Alain, tu veux...
En même temps, il y a des questions.
D'autres questions, oui? Ou de réflexion?
Oui, je voulais intervenir pour dire cette histoire de dépendance qui est, semble-t-il, au centre là, de la discussion. Toutes les dépendances mettent en jeu effectivement quelque chose qui est peut-être de l'ordre du liberticide, mais il me semble que dans la science-fiction, la question qui est posée la plupart du temps de manière extrême, c'est est-ce que cette dépendance, elle est volontaire, ou est-ce qu'elle est imposée? Bon, l'exemple des téléphones, c'est l'exemple des gens à qui on implante des puces, etc., dans toutes les sociétés totalitaires, on va dire. Mais des sociétés totalitaires de l'ancien temps également, avec la surveillance des curés, c'est le même fonctionnement. Or, à partir du moment où cette dépendance, elle est volontaire, effectivement, on peut toujours dire qu'on peut éteindre, détacher la prise du mur, etc. Et c'est cette dépendance volontaire, même, pour le faire un peu... Des références, moi, elle me laisse penser que peut-être que la Boétie est plus moderne que Foucault.
Je me pose souvent cette question et je vous répondrai après.
Moi, je trouve un peu le ton de la discussion pessimiste. J'ai l'impression qu'il nous arrive sans arrêt, avec les nouvelles technologies, des ennuis futurs qu'on a plus ou moins dépassés. Il faudrait peut-être aussi parler des nouvelles formes de résistance. C'est-à-dire que les technologies aussi engendrent des scènes de résistance nouveaux. Et je crois que face collectivement, parce que je trouve que le discours manque un peu d'esprit politique. Foucault, c'est un Marx qui a raté. Marx au moins fait le communisme, Foucault a débouché sur rien, je m'excuse. Et donc, c'était bien de faire l'antipsychiatrie, mais il n'a pas donné de solution. Alors que quand on pense par exemple à des mouvements comme Wikileaks, où les gens qui ont mis ça au point révèlent des vérités, je dirais, ils se battent un peu, pour parler de Nietzsche, contre le système. Donc ils sortent du système tout ce qui est caché pour le mettre au grand jour. Ces gens-là sont traqués ensuite par tous les pouvoirs en place qui ont bien compris ce qui se passait. Et j'ai l'impression que ces gens-là ne sont pas assez soutenus. Si vous voulez, on est apathique. On n'aide pas ces gens-là. Il existe des tas de mouvements, je dirais, sociaux contre ces phénomènes qui ne sont pas assez mis en avant dans la littérature de façon générale. Je trouve qu'on n'encourage pas assez la transgression collective contre ces moyens modernes de lutte. Voilà, c'est le sentiment d'un ancien 68-art.
Alors, si vous voulez, moi je partage assez ces préventions que vous avez contre Foucault. C'est-à-dire c'est un auteur qui a une portée critique très intéressante, dans plusieurs moments de son œuvre, on a simplifié, une portée critique. Alors pour ça, ça fait penser quand même au travail des marxistes, et de Marx en particulier, hein, d'abord. Maintenant, il n'a pas une dimension normative dans son œuvre, effectivement. Il n'y a pas une dimension normative. Alors, je crois qu'il ne peut pas y en avoir du fait qu'il demande précisément à ses élèves, à ses successeurs, d'inventer quelque chose. Parce que ce qui est mis en question, c'est justement, on parlait de vitalité, mais aussi le potentiel de créativité des individus. C'est-à-dire qu'un individu est digne de ce nom dans la pensée de Foucault s'il est inventif et créatif. Voilà. C'est-à-dire que la résistance, elle passe par la créativité. Et cette créativité, évidemment, elle peut s'appuyer sur les moyens technologiques. Soit sur une utilisation étrange, c'est toi ou moi, des moyens technologiques, pas prévus par le système, soit par une invention de moyens technologiques. Voilà. Donc c'est ça la dimension normative de l'œuvre de Foucault, c'est soyez inventif. Alors ça, c'est très 68 art pour le coup. Voilà. Donc moi, bon, je ne défendrai pas Foucault au-delà de ça, mais il me semble que c'est pas mal quand même. C'est une bonne base, en fait. Hein, après, on n'a pas de code. Ce que je reproche au marxisme, c'est qu'on a un code un peu trop marqué, pour le coup. Alors là, il n'y a pas de code. Débrouillez-vous, dit Foucault. Ce qui est une attitude très, très philosophique. Alors, maintenant, la Boétie, la servitude volontaire. Oui, mais justement, ce que montre la Boétie, c'est que, précisément, la distinction entre volontaire et involontaire est difficile à percevoir. Elle est difficile à percevoir. Et qu'il y a une étrange tendance dans l'individu à s'assujettir, à désirer ce qu'on peut appeler le contrôle de manière pessimiste et ce qu'on peut appeler la sécurité. Ça y est, on est contrôlé. On est interféré. Au secours. Bon, alors donc, il y a une dimension, un désir de confort, un désir de... je vous le dis tout de suite, je crois qu'il y a un désir de performance. Fondamentalement, dans l'utilisation des techniques, il y a un désir de performance. Qu'il s'agisse de techniques biomédicales ou des techniques, disons, d'information, au sens général du terme, de communication d'information, d'expression, il y a finalement... En vous entendant tout à l'heure, je me disais que finalement, il y a au couple conceptuel, aux distinctions conceptuelles proposées par Foucault, alors il y avait normal, anormal ou pathologique, sain, malade. Maintenant, s'ajoute quelque chose, c'est performant et apparemment inactif. Mais dans cette inactivité, qui est un refus de la performance, peut se jouer de la créativité. Hein, il me semble que là, il y a une distinction à travailler, c'est que on voit bien les individus de haute technologie. Avec un corps parfait, sont déjà là ou pour demain, et à côté de ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Hein, je crois que le choix qu'on a, c'est refuser quelque chose qui n'est pas de l'ordre du contrôle, mais qui est de l'ordre de la performance, ce qui revient au même finalement, moyennant les instruments. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le marché, qui est un ensemble d'inter... je ne le substantifie pas, c'est un ensemble d'interrelations, hein, le marché peut être suffisamment attractif pour nous rendre très performants. Et c'est dans cette performance que se joue un contrôle diffus dont je pense, faut pas être paranoïaque non plus, qui profite pas spécialement à quelqu'un, voilà. Et il y a quand même un contrôle. Voilà. Alors justement, ce que je voulais dire, ce que j'avais préparé un peu, c'était de réfléchir sur un plan plus général en termes d'espèces.
Finalement, ce que cette moi occasion m'aura donné la possibilité de concevoir, c'est de réfléchir sur la notion de contrôle au niveau anthropologique, compte tenu du rapport de notre espèce aux autres espèces. C'est-à-dire compte tenu de la complexité qui nous caractérise et de la créativité qui nous caractérise, chez nous, la question de l'organisation, elle est toujours liée à celle du contrôle. C'est pour ça qu'on ne peut pas être paranoïaque là-dessus. C'est une façon un peu faible de procéder. C'est que, finalement, notre propre complexité nous pousse, par les moyens de notre intelligence et par notre culture, les options offertes par les différentes cultures, et aussi par donc les possibilités recelées par la technique. Et bien, tout ça nous permet de nous émanciper en permanence, ou de viser de l'émancipation. Et dans le même temps, finalement, l'interaction des individus, compte tenu aussi des instruments qu'on a dit tout à l'heure, va provoquer une sorte de contrôle, indépendamment même des moyens et de la répartition des moyens. Ce que je veux dire, c'est que si on prend la comparaison avec des insectes, avec des poissons, et avec les autres mammifères, alors, dans les poissons, on a finalement une relation de l'individu. Prenons, quels sont les poissons qui se déplacent par banc? Des sardines? Des harengs? Prenons un banc de poissons de ce genre. Alors, je me suis promis de questionner mes camarades éthologues du département de psychologie en disant, mais est-ce que tu as une idée de la manière dont l'individu se perçoit par rapport au mouvement du banc? Question que je vais leur poser. Pour les insectes, par exemple, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, savante ou finalement littérature d'imagination, sur les fourmis, sur les abeilles. Finalement, quelle est la marge de manœuvre, quelle est l'émancipation possible ou la conscience de l'émancipation d'un individu par rapport au contrôle que l'organisation exerce sur lui, sachant que contrôle et organisation sont les deux phases d'un même processus. Maintenant, qu'en est-il dans les mammifères sociaux, que sont par exemple les dauphins, les loups, et puis aussi les humains? Alors, la question, vous voyez, à ce niveau de généralité, est posée sous la forme d'un paradoxe. Finalement, toute tentative d'individualisation trouve son contrepoint dans un renforcement du contrôle. Il me semble que si on entend par individualisation le degré de conscience qu'atteint une personne et la manière qu'il a de l'exprimer aux autres, eh bien très vite les autres parviennent à ce seuil de conscience, hein, par groupe différencié, et c'est ce seuil de conscience moyennant les instruments technologiques qui fait qu'on retombe sur une forme d'interaction permanente et donc de contrôle. C'est-à-dire que ce que cette réflexion, hein, excusez-moi, un peu abstraite et métaphysique, nous permet de mettre en question, c'est une idée naïve de liberté. Voilà. Je crois que notre espèce... Je ne sais pas si les individus sont libres dans notre espèce, mais notre espèce, moyennant sa culture, son histoire, ses moyens technologiques prodigieux que n'ont pas les autres espèces, peut en tout cas, vous voyez, mettre en question ce que c'est qu'un individu.
Alain, est-ce que tu as envie de rebondir toujours dans le thème de la demande sociale de contrôle et rebondir aussi?
Ouais, je pense que les questions sont très intéressantes et puis on peut justement on va les attendre et on peut aller assez loin là-dessus. Moi, bon, je vais en reprovoquer encore parce que je sais que j'ai un cadre qui est globalement technophile, donc ça me plaît. Non, ce qui m'intéresse, c'est j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la recherche de performance et sur l'idéologie insu ou inconsciente de performance qui nous trame. On est dans un monde, et on le voit notamment dans le champ publicitaire, tout nouvel objet technologique qui est amené sur l'idée d'un pouvoir supplémentaire, et amené sur une capacité supplémentaire, un peu comme un gameplay nouveau qu'on va vous donner pour jouer dans l'espace réel, quoi. Et cet horizon performatif, il est absolument pas questionné ou extrêmement peu questionné. Ce qui fait qu'on arrive avec un nouveau téléphone portable qui fait de la photo, puis on vous dit, regardez, vous allez pouvoir faire des photos, c'est extraordinaire. Regardez, vous allez pouvoir toucher n'importe quelle personne à n'importe quel moment, c'est extraordinaire. On augmente votre pouvoir. Voilà. Et quand vous parliez de la nouvelle génération, etc., moi je m'intéresse énormément aux ados aujourd'hui, je m'intéresse énormément à la façon dont ils se construisent dans ce monde-là. Et il y a une euphorie. Il y a une euphorie chez les ados, et qui peut s'apparenter à une vitalité, mais attention, est-ce que c'est la même chose? Il y a une euphorie technophile, parce que la technique avec laquelle ils naissent et avec laquelle ils se développent, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit avec Facebook, que ce soit avec les chats, les forums, les mails, donne une possibilité de contact extraordinaire. Et à un moment, généralement, où on est en train de bâtir son identité, et où le rapport, je dirais, face à face, homme à homme, corps à corps, tête à tête avec quelqu'un, est quelque chose de difficile. On le sait tous dans la phase d'adolescence. Donc, le fait de pouvoir avoir ce rapport avec une bande, j'ai envie de dire, la bande étant l'objet technologique, c'est extraordinaire et ça les aide à se construire. Mais ça les distancie aussi. Donc, moi, j'ai le sentiment que, ouais, on est dans l'euphorie, et là, on est dans un monde, enfin, je vais exprès vous embêter, mais on est dans un milieu qui est assez geek, qui est assez technophile. Et donc, dès qu'on met en question cette euphorie, dès qu'on dit, attention, qu'est-ce que cette euphorie, dans l'envers, dans le revers de ce qu'elle apporte, modifie de nos rapports au monde, et qu'est-ce qu'elle touche en termes de vitalité, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre des choses aussi? On est aveuglé. Moi, pour moi, à cause de la vitesse du développement technologique, il y a un aveuglement euphorique lié au fait que les technologies tombent les unes après les autres, et chacune est plus extraordinaire que l'autre parce qu'on est dans une phase extrêmement positive de progrès techno, notamment sur tout ce qui est connectivité et télécom. Voilà.
On va prendre deux ou trois questions et puis on va. Le temps s'écoule très vite, malheureusement, donc on va.
Ouais, moi, je voudrais réagir à cette supposée euphorie. Je pense que c'est en partie vrai, en partie pas vrai. Je pense effectivement, les ados, on a vu l'explosion Facebook, on a vu l'explosion des réseaux sociaux. Moi, ce que je vois, c'est qu'il commence à apparaître les premiers articles de gens qui ont une sorte de passage à la maturité. On commence à voir apparaître des gens qui font des applications pour tuer son profil Facebook. Donc non, je pense que les gens reviennent. Il y a une période. Non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas, ça reste pas imprimé au fer rouge. Il y a des gens qui en reviennent. Et moi, je voudrais également évoquer ma propre expérience. Je suis parent de deux garçons. Je suis ingénieur en télécommunication. Enfin, je suis là-dedans, quoi. J'ai lu de la SF, donc je suis plein de cibles, quoi. Plein cœur de cible de ce que vous décrivez. Et pourtant, non, moi, je restreins l'accès à ces technologies à mes enfants. Je sais, quelque part, alors, c'est là où je m'oppose à vous. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une forme de contrôle nécessaire pour conquérir sa liberté. Voilà, tout est dit.
Oui, donc, c'était aussi pour réagir toujours par rapport au fait, l'euphorie par rapport aux nouvelles technologies. C'est aussi, enfin, je pense, on est dans une sorte de société où on a quand même eu, il y a plein de carcans qui ont été mis, notamment, ne serait-ce que l'homme qui s'est mis lui-même des carcans, comme on l'a dit. Et justement, on a une espèce d'espace de liberté qui est encore très vierge qu'à Internet, de liberté d'expression, de liberté de recherche, de liberté pour l'imagination. Et justement, toute cette imagination a été bridée dans notre société, notamment par le côté très scientifique. On a mis en avant la raison, on a dit, enfin, la raison est au-dessus de l'imagination et faut augmenter la raison. Et donc, il y a pour moi cette recherche aussi sur Internet. On voit bien, notamment au Japon, avec tout ce qui est les otaku, etc., où ben, ils se mettent complètement dans un monde imaginaire, parce qu'enfin, pour moi, c'est, on n'en peut plus de ce monde où on nous a complètement bridés, et donc ils ont besoin de ça pour aller se mettre dans un monde imaginaire, pour retrouver leur liberté.
Moi, je pense que notre opinion sur ces choses-là est colorée par le fait que nous sommes sensibles au changement et pas au résultat. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas l'écriture, eh ben, le travail de la police était beaucoup plus difficile. Il n'y avait peut-être même pas de police. Hein? Quand les êtres humains n'avaient pas de langage, eh ben, leurs relations n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, le langage, en même temps, le langage, on l'apprend d'une collectivité, on n'est pas libre de choisir son langage.
Ce n'étaient pas des êtres humains.
Oui. Les hominides, si tu veux, d'accord, nos ancêtres biologiques. Et effectivement, c'est ce que je voulais dire. On considère de nos jours que quelqu'un qui est privé de l'accès au langage par l'isolation, un enfant sauvage, ne devient pas vraiment humain. Hein. Il n'acquiert pas les capacités que nous considérons comme permettant d'avoir la liberté, permettant d'avoir l'individualité, permettant à un être humain pleinement réalisé. C'est un exemple extrême, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à terme, il est fort possible que toutes ces performances supplémentaires soit tellement intégré dans un ensemble qui, bien sûr, devra apprendre, former ses propres règles pour que ça soit la base de la formation de l'identité des gens, de même que le langage a été pour la création de l'être humain. Hein, bon, avec une grosse différence quantitative ici, bien sûr, aussi. Et qu'une fois ceci acquis et intégré, on ne pourra plus imaginer de s'en passer, si tu veux. Donc, j'aimerais savoir, mais je dis peut-être des bêtises, si tu veux. On dit toujours des bêtises, il faut dire des bêtises, sinon on dira rien d'intéressant. En quelle mesure on a des choses qui sont vraiment nouvelles au niveau qualitatif, hein, plutôt qu'une augmentation quantitative de phénomènes d'amélioration, disons, de l'échange, de la diffusion, de la définition et de la mémoire de l'information qui se produisent de façon incrémentale depuis très longtemps, en fait, avec tout un tas de systèmes. La photo, par exemple, hein, je veux dire, à partir du moment où on peut faire des photos, on peut avoir des papiers d'identité, et c'est une forme de contrôle social beaucoup plus forte qu'avant. Bon,
Je suis désolé, vous pourrez éventuellement poser des questions après, mais on n'a plus que 5 minutes. Donc, non, mais il n'y a pas de mal. En fait, je voulais en profiter justement, puisqu'on est dans le troisième thème que je voulais aborder, c'est... finalement, est-ce qu'il y a vraiment un contrôle? Est-ce que tout ça se mélange pas par rapport au est-ce que finalement cette augmentation insidieuse peut-être du contrôle et pas finalement aussi notre porte de sortie ou une forme de liberté? Je voulais me poser la question des résistances et alternatives. Est-ce qu'il est possible qu'une prise de conscience collective du contrôle se produise, ou est-ce que c'est vraiment l'individu que réside la solution? Est-ce que c'est l'amour, la SF, la philo? Enfin bon, j'avais un peu mis tout ça dans un même
l'amour de la SF.
Non, je sais pas. Donc, pour finir sur une note optimiste, Gizia.
Ouais.
Tous les.
Ah bah. Il ne faut pas oublier que la raison, quand elle arrive, aujourd'hui on pense les mathématiques, on vit dans les mathématiques, etc. Mais Copernic, quand il a écrit son bouquin, lorsque Copernic a émis son bouquin, il a pu le diffuser dans toute l'Europe uniquement parce que personne n'y comprenait rien, notamment le... Donc j'ai beaucoup aimé la réflexion qui a été faite. L'espace de liberté, il est dans justement ce qui n'est pas maîtrisé. Et aujourd'hui, on est enfermé dans un monde de la raison, mais à l'époque, il a pu s'exprimer pendant 30 ans, 20, 25 ans. Et lorsqu'on arrive à Giordano Bruno, on commence à comprendre, donc il est brûlé. Et Galilée va être obligé de se rétracter. Donc profitons de la liberté. Je pense que les espaces comme ici sont le reflet de ça. Voilà.
Donc, est-ce que je peux demander, à la limite, je peux vous demander à chacun de vous de conclure par votre réflexion, un peu faire une conclusion par rapport à ça.
Ouais. Juste rapidement, donc sur la résistance. Évidemment, moi, j'ai bien aimé l'intervention aussi de l'ex 68art. Ça m'a fait plaisir aussi. Sur Foucault, Foucault a énormément aidé les luttes militantes. Il a été lui-même dans le groupe d'intervention dans les prisons, mais il a aussi beaucoup aidé les mouvements lesbiens, lesbiens, homosexuels, etc. Et les gens ont su s'emparer de la pensée de Foucault et développer et créer à partir d'elle. Donc ça reste quand même quelqu'un qui est très positif là-dessus. Moi, sur la résistance, je suis très sensible au fait que moi, j'ai absolument aucun pessimisme par rapport à tout ça, au sens où le mouvement est tellement rapide, même sur l'avancée technologique, qu'il permet énormément d'espace de liberté, il permet énormément d'underground et de résistance, ou en tout cas d'alternative. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Simplement, la question que je me pose, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est essentiellement à partir de toutes les logiques que j'appelle panoptiques à la suite de Foucault, c'est-à-dire la visibilité maximale des produits, des flux d'hommes, de marchandises, des corps dans l'espace, etc. Ça, c'est quand même ce qu'apporte l'outil technologique, c'est quand même quelque chose qui se met en place de façon extrêmement forte et de façon, je dirais, tranquille, presque. On va vivre dans ce monde-là, on va vivre dans un monde très contrôlé, très repéré, très situé. On va être logé, comme disent les policiers, on est logé, c'est-à-dire on sait parfaitement où on se situe à n'importe quel moment. Moi, quand je vois les applications qui arrivent sur l'iPhone où, le GPS nous dit où on est, mais tout le monde le sait, etc. Tout ça, bon. Moi, ce qui m'intéresse sur la résistance, c'est d'essayer de mettre en place, c'est-à-dire de trouver les nouveaux paradigmes de la résistance. Alors, dans la zone du dehors, je l'avais mis en place avec ces méthodes alternatives en sortant de la société. Aujourd'hui, c'est un peu le travail de mon troisième livre, je vais essayer de travailler sur l'idée de furtivité. Qu'est-ce que ça veut dire être furtif dans un monde qui est de plus en plus contrôlé, et de plus en plus contrôlé par les gens eux-mêmes, c'est-à-dire par nos proches, par nos parents, par nos amis, par le travail, etc. C'est-à-dire que ce contrôle, je dirais, qui auto-émerge et qui se diffuse extrêmement rapidement, comme une nappe. Et moi, je ne suis pas toujours d'accord quand j'entends que parce que ça émerge naturellement, parce que ça émerge des gens, alors on devrait l'accepter. Non, pas forcément. Je veux dire, ça doit nous interroger aussi, même si ça vient d'une liberté. C'est ce que dit Thierry aussi, est super intéressant sur l'émergence du contrôle. C'est-à-dire que c'est normal que l'on soit dans une société de contrôle à partir du moment où on est de plus en plus individualisé et de plus en plus libre. si on bâtit une démocratie et qu'on rejette au maximum le système disciplinaire, et aujourd'hui on ne supporte pas les ferments du système disciplinaire, on supporte mal l'autorité, on supporte mal les segments durs. Donc c'est logique que dans ce cadre-là, la liberté s'exprime à travers un autocontrôle des gens, à travers une autorégulation, à travers une sorte d'homéostase du corps social qui arrive à s'autoréguler à distance, et les réseaux sociaux font partie de ce système-là. Mais ce n'est pas parce que ce système se met en place de façon un peu naturelle et libre qu'on ne doit pas s'interroger sur ce qu'on perd, nous, en tant qu'être vivant, ce qu'on perd en tant que créateur. Et moi, je le vois, et c'est un problème personnel, c'est quand je suis dans des continuums joignables tout le temps par mail ou par portable, je suis mal, je n'arrive pas à créer, j'ai besoin de poche, j'ai besoin de trous, j'ai besoin de trous d'air, j'ai besoin d'appel d'air, j'ai besoin de cette discontinuité, j'ai besoin de ces champs, quoi. Et j'aimerais vivre dans un monde où on continue à avoir ces trous. Voilà, c'est trop dans la structure. Et la technologie, à cause de son horizon performatif, a tendance à boucher tous les crocs. Voilà. Donc voilà, j'essaie de réfléchir là-dessus, et mon prochain livre sera là-dessus, sur des êtres qui sont capables de se loger dans les interstices de la visibilité, du pouvoir, du contrôle, et qui exercent cette liberté-là. Voilà.
Merci Alain. Thierry ?
Ouais, juste en deux mots, moi je terminerai en... Une de mes convictions, c'est que accepter d'être philosophe de métier, c'est accepter... Un truc très pénible, c'est que les gens vous demandent des leçons. C'est très pénible, ça. Il ne faut pas se dérober à ça, notamment en tant que pédagogue. Un philosophe, c'est un pédagogue qui, normalement, un vrai philosophe, il met à l'épreuve ses propres tests pédagogiques. Alors, moi aussi, je suis éleveur d'enfants, au double sens du terme, hein, d'élevage et d'élévation, du moins, j'espère. Et en fait, donc je suis aussi, évidemment, pédagogue à plusieurs niveaux, à la fac, ici et là. Et du coup, vous voyez, moi, mon travail par rapport à ça, il est d'une confiance que je mets dans l'individu, en disant, voilà, il faut acquérir, je suis très conscient là-dessus, acquérir votre autonomie, votre maturité personnelle. Et je suis Nietzschéen aussi en disant, vous avez une énergie, vous avez un style, il faut le trouver. Il faut trouver le style qui permet l'expression de votre propre énergie. Alors, ça veut dire, faites l'expérience. Mais là où finalement, il ne faut pas se tromper sur ce que c'est que la volonté, c'est tous ces avatars métaphysiques hérités du XVIIe siècle, voilà, c'est dire aux gens... Eh bien écoutez, peut-être que vous croyez que vous pouvez vous passer de la technologie, mais peut-être que ce n'est pas possible. Faites l'expérience. Essayez précisément de trouver l'interstice là, où vous allez débrancher et devenir invisible pendant un certain temps. Et éventuellement vous transformer. Et dans ces conditions, je crois qu'on peut mettre les gens dans un système de confiance, dans leur pouvoir de créativité, et dans un système de prudence, qui leur, vis-à-vis donc de toutes les tentations les plus délirantes qui vont arriver, je pense, qui sont déjà là, vis-à-vis de leur propre performance en particulier, sexuelle, relationnelle, de maîtrise supposée de leur existence. Alors précisément, je crois qu'on ne maîtrise rien. Bon, d'autre côté, on peut aussi rappeler aux gens quelque chose qui me semble très fort en tant que pédagogue, c'est qu'il y a, quelque expérience qu'on fasse de la vie, quelque expérience qu'on s'autorise, il y a des autorités. C'est-à-dire, il y a des traditions de pensée, il y a des cultures, il y a des gens qui ont écrit des choses, il y a des grands films qu'il faut voir. Voilà. C'est-à-dire que il y a, je crois que ce double message, ce qui est le mien, vivez, expérimentez de toutes les manières, mais n'oubliez pas, avec un peu de prudence, que vous vivez dans une culture et que cette culture vous donne des instruments, des prodigieux moyens, peut-être pas technologiques, mais culturels, d'émancipation et d'affirmation. Merci.
Donc merci. Si évidemment il y en a qui veulent poursuivre la discussion, vous n'hésitez pas à venir voir Thierry, Alain ou même Stéphane qui fait partie aussi de la Société Alpine de Philosophie si vous voulez discuter. Voilà. Merci.